Et on retrouve Robin Cornet, l'invité de Matin Première.
Oui, c'est Jean-Paul Martoz. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, hein, vous êtes depuis longtemps un observateur attentif de l'Amérique latine et de la politique étrangère américaine. Vous avez beaucoup écrit là-dessus dans vos livres, dans vos éditos et sur votre blog. Un entretien et une poignée de main au sommet des Amériques. Pas encore, cependant, de levée de l'embargo américain sur Cuba. Cependant, la rencontre entre Barack Obama et Raúl Castro est partout qualifiée d'historique. C'est un peu la dernière page de l'histoire de la guerre froide sur le continent américain. Est-ce que, Jean-Paul Martoz, on peut aujourd'hui dire que la réconciliation et la levée de l'embargo américain, c'est quelque chose d'inévitable?
Je pense que c'est inévitable. À terme, je crois que après des tractations qui seront très difficiles, je pense qu'on arrivera à une vraie normalisation, c'est-à-dire l'ouverture d'une ambassade, peut-être la levée de l'embargo, mais c'est vrai que le système américain, l'establishment américain est favorable finalement à une normalisation dans une région qui a un peu son arrière-cour. C'est important pour normaliser les relations des États-Unis avec l'Amérique latine, un continent qui est extrêmement important au niveau économique, stratégique, mais aussi migratoire pour les États-Unis, culturellement aussi d'ailleurs. Et donc du côté américain, je pense qu'il y a une volonté réelle. Ce qui ne veut pas dire que le Congrès, qui a l'autorité pour lever l'embargo, rendra la tâche facile. On est en période électorale. Je pense que les républicains ne veulent pas laisser le moindre espace au président Obama. Il y a une véritable mobilisation anti-Obama au sein du Congrès républicain et donc pour entraver cette normalisation. C'est-à-dire, je pense qu'on y arrivera, certainement.
Mais
parce
peut-être
que
pas avant la fin du mandat d'Obama.
Pas nécessairement. Je pense qu'il y a une dimension politique intérieure qui est extrêmement importante. Mm. Et du côté cubain, évidemment, je pense que cette normalisation est extrêmement importante parce que le système cubain est épuisé, je veux dire, au niveau économique, certainement. C'est un pays qui dépend très fort, quand même, de l'économie vénézuélienne, qui elle-même est en pleine crise. Et donc, il y a un sentiment à Cuba qu'il fallait à tout prix trouver une normalisation pour pouvoir s'installer calmement, normalement, au sein de la communauté latino-américaine et retrouver une base solide pour pouvoir amorcer ces fameuses réformes économiques dont dépend en partie d'ailleurs l'avenir politique du régime castriste.
Donc pour le régime cubain, vous nous dites, c'est plutôt un choix dicté par la raison économique. S'ils avaient les ressources nécessaires, ils se seraient bien passés de ce rapprochement, c'est ce que vous pensez?
Non, je pense que depuis de très longues années, il y a eu une volonté de la part des frères Castro de trouver un accommodement avec Washington, en trouvant eux aussi finalement que cette tension permanente avait assez duré. Ils ont multiplié d'ailleurs ces dernières années un certain nombre d'initiatives pour tenter de débloquer la négociation, avec comme condition qu'on ne pouvait pas remettre en cause la souveraineté nationale et la nature de leur propre régime. Donc ce qui bloquait en partie d'ailleurs ces négociations. Mais je pense que c'est vrai que la raison économique est très forte. Je pense que on sait très bien qu'à Cuba, une partie importante de la population est très hostile à la gestion économique de l'île. Récemment, un sondage publié par le Washington Post et Univision, qui est la grande chaîne de télévision hispanique aux États-Unis, a démontré que près de 60% des Cubains sont insatisfaits de la situation économique et près de 50% des Cubains, et d'ailleurs plus de deux tiers des Cubains de moins de 35 ans, voudraient vivre ailleurs, pour des raisons essentiellement d'ailleurs de nature économique, mais aussi peut-être politique. Mais il y a vraiment une dimension économique extrêmement importante. Et le régime cubain sait très bien que pour pouvoir assurer le contrôle sur toute transition, pour arriver à ce modèle qui les attire, qui est le modèle vietnamien, c'est-à-dire un système politiquement autoritaire qui permet de préserver le contrôle politique du pays, mais en même temps une ouverture économique, une libéralisation économique, il lui faut évidemment s'ouvrir sur ce qui est le marché le plus important du monde à quelques encablures. On est vraiment très près des États-Unis, de la Floride, quand on est à Cuba. Donc je pense que la dimension économique est essentielle.
Donc c'est vers ce modèle vietnamien de communisme que l'on se dirige, en tout cas pas au renoncement idéologique complet. En tout cas, on n'est pas vers un rapprochement qui ouvre vers des grands bouleversements politiques.
Mais les calculs sont en fait ambigus dans les deux camps. D'une certaine manière, le régime cubain aujourd'hui rêve d'une normalisation pour préserver le maximum de la nature de son régime, et notamment sa nature politique, le contrôle exercé par les partis communistes sur le pays, alors que les Américains, après avoir tenté pendant 50 ans, par l'embargo, de faire changer les choses, sont arrivés à la conclusion, du moins l'administration démocrate est arrivée à la conclusion, qu'il fallait ouvrir, normaliser. Mais l'idée est toujours là. D'ailleurs, quand on relit la note du département d'État et de la Maison-Blanche sur les raisons pour lesquelles s'amorçait ce processus de normalisation, Washington n'abandonne aucunement sa volonté de contribuer à l'évolution politique du régime. Et d'ailleurs, ce serait politiquement tout à fait intenable aux États-Unis de dire on normalise sans penser que c'est une autre manière d'aboutir à la même, au même résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est finalement comme aboutir à un changement du régime, j'ai pas dit un changement de régime, à Cuba.
Oui, ce que les sanctions économiques n'ont jamais vraiment eu pas. Comme
au
effet.
Au contraire, elles ont plutôt, en partie renforcé le système.
Ouais. Le système. Alors pourquoi est-ce que ça intervient maintenant? Il faut dire que Cuba a longtemps été maintenu à bout de bras par l'URSS, et puis l'URSS ayant éclaté, la Russie s'est désintéressée de Cuba. Cette situation économique, elle n'est quand même pas tout à fait neuve. Pourquoi est-ce que maintenant on est sur un tournant?
Mais je pense que d'abord, du côté cubain, il y avait ce sentiment qu'il fallait cesser d'être un pays qui, depuis des années, depuis toujours d'ailleurs, d'une certaine manière, a été fortement dépendant d'étrangers. Il y a vraiment un sentiment national très fort, de souveraineté nationale très fort à Cuba, et il fallait arriver à sortir cette dépendance. La dépendance aujourd'hui, elle est à l'égard du Venezuela, qui est un allié. Les Cubains sont très présents au Venezuela, mais cela dit, les Cubains, qui sont très réalistes, savent très bien que le système vénézuélien est fragilisé, économiquement et même politiquement, et que donc on ne peut pas dépendre de nouveau d'un pays extérieur. Ça, c'est le côté cubain. Du côté américain, je pense que la tentative actuelle était inspirée dans le programme d'Obama en 2007 déjà. Mais il était impossible politiquement pour Obama de prendre ce risque lors d'un premier mandat. D'ailleurs, Fidel Castro avait dit en 1994 à des Américains, il faudra attendre un président qui a deux mandats pour qu'il puisse ouvrir de véritables négociations. C'est-à-dire que Obama n'a plus de risque politique pour sa propre carrière. Il veut entrer dans l'histoire. Il a tenté de le faire avec l'accord sur l'Iran. Il veut le faire avec l'accord sur Cuba. Et c'est vrai que ça correspond à sa philosophie profonde de chercher des solutions négociées à des conflits.
Alors, il ouvre la porte. La suite du processus dépendra du prochain locataire de la Maison-Blanche.
Tout à fait, absolument.
Si c'est les Républicains, la porte risque de se refermer?
Pas nécessairement, parce que si du côté républicain, un candidat plus modéré s'impose, il pourrait trouver d'ailleurs extrêmement intéressant de se réconcilier avec la génération montante au sein du monde hispanique et d'ouvrir finalement cette porte, de l'entrouvrir encore davantage. Donc, cela dit, si un des candidats républicains est quelqu'un d'origine cubaine-américaine, comme par exemple Ted Cruz, qui est le sénateur du Texas, ou Marco Rubio, qui va annoncer sa candidature aujourd'hui d'ailleurs, qui est un sénateur d'origine cubaine en Floride, je pense qu'il aura beaucoup de mal à imposer un changement d'attitude à sa propre communauté, qui reste contrôlée hostile, par les milieux anticastristes les plus agressifs.
Effectivement. Alors, un petit mot peut-être sur l'actualité d'aujourd'hui, qui est cette campagne américaine dans laquelle se lance Hillary Clinton. Vu d'ici, comme c'est un peu la seule personnalité qu'on connaît, c'est une personnalité qui nous est familière comme ancienne secrétaire d'État, on a l'impression que côté démocrate, c'est un peu plié pour Hillary Clinton. Est-ce que c'est aussi juste que ça? Est-ce que c'est aussi joué d'avance?
Je pense que c'est la perception générale aujourd'hui, mais les surprises sont inévitables dans ce genre de campagne qui dure quand même de très très longs mois. Il y a des candidats démocrates qui pourraient surgir en estimant que l'expérience d'Hillary Clinton est à la fois peut-être un atout, mais c'est un atout surtout en temps de crise, et notamment en crise internationale, où les Américains, peut-être bien, cherchent quelqu'un qui a l'expérience. Mais si on est confronté à des questions plus économiques et sociales, même sans crise économique et sociale, mais si on s'interroge sur l'origine de la crise actuelle, avec le Tea Party qui va agiter beaucoup au niveau populiste, il n'est pas dit que Hillary Clinton fasse partie de cette élite qui est fortement condamné dans les milieux populaires. Et donc à ce moment-là, c'est pas dit que surgisse une candidate comme par exemple Elizabeth Warren du Massachusetts, qui représente l'aile centriste, centre-gauche du Parti démocrate, et qui pourrait à ce moment-là peut-être jouer la surprise. C'est possible.
Il y a des personnalités démocrates qui pourraient challenger Hillary Clinton. Ouais. C'est tout à fait envisageable.
Oui, c'est envisageable, absolument. Oui.
Merci beaucoup pour vos analyses, Jean-Paul Marteau, ce matin.
Merci. D'ailleurs, en 2008, elle était favorite et c'est
exactement,
un sacré Barack Obama qui a pris le dessus. Ouais. Vous pouvez revivre cet entretien sur notre site internet lapremière.be. Dans un instant, c'est le café serré avec ce matin notre ami Bruno Coppens.
Matin première, jusqu'à 9h.